Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, c'est Zoé de Louis. Avant de commencer votre épisode, j'aimerais vous parler du film Rosalie, qui est actuellement au cinéma. Un film réalisé par Stéphanie Di Giusto, qui présente le destin de Rosalie, une jeune femme qui se découvre et s'émancipe dans la France très puritaine de 1870. Ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que Rosalie est une femme à barbe, un trait physique quelque peu particulier, surtout pour les mœurs de l'époque. On vit avec Rosalie sa quête d'amour et de liberté face à une société qui ne l'accepte pas à cause de sa différence. Le film réunit pour la première fois Nadia Tereskevitch et Benoît Maginel, tous les deux très touchants dans cette histoire d'amour complexe, mais très belle. Alors n'attendez plus pour aller voir Rosalie au cinéma dès maintenant et découvrir ce film qui célèbre l'acceptation de soi et des autres. Vous pouvez aussi découvrir l'interview de Nadia Tereskevitch, le personnage principal du film, dans notre dernier épisode de Pépite. À très vite.
Louis.
Lors de mon anniversaire à la fin de l'été dernier, on m'a offert plusieurs fois le même livre. À cette soirée, c'était drôle de déchirer le papier cadeau et de découvrir à trois reprises la même couverture. Cette couverture, je la trouve très belle. Il y a le visage d'une femme en noir et blanc, qui regarde au loin, et il y a le titre du roman sur un fond rouge. Ce livre, beaucoup de jeunes femmes à cette soirée l'avaient lu, et m'ont confié à quel point ce texte avait été important pour elles. J'ai compris que l'on se passait ce roman entre femmes particulièrement, et depuis déjà un petit moment, et j'étais heureuse de faire partie de ce cercle pour ma 32e année. Alors j'ai été émue en entendant la comédienne et écrivaine Adélaïde Bon en parler au micro du Book Club pour ce nouvel épisode. Sa voix est comme tendue sur un fil, fêlée, légèrement tremblante, mais bien en vie. Ce récit d'une héroïne qui se jette au cou de la joie, selon les mots de notre invitée, l'a accompagnée dans sa reconstruction, dans sa renaissance, mais aussi dans son projet d'écriture. Adélaïde Bon a 9 ans, le jour où un homme la suit dans la rue et la viole. Et son monde bascule. Devenue adulte, elle en écrit un livre paru aux éditions Grasset, « La petite fille sur la banquise ». Raconter l'inexprimable, c'est pour elle chercher à remettre les mots dans le bon sens, pour leur faire dire la vérité. Je suis Agathe Le Taillandier, bienvenue dans le Book Club.
Je suis pas tout à fait sûre, s'il n'y avait pas les livres, d'être suffisamment compétente pour vivre la vie telle qu'elle se présente. Et je considère souvent que se promener sans livre, ce serait comme se promener sans notice d'utilisation du monde. Ce serait assez effrayant. Dehors, il pleut. Il vente et de là où je suis assise, je peux voir les branches du lierre s'agiter, les bambous et quelques fleurs aussi. J'ai la chance d'avoir un petit bureau qui donne sur une cour arborée et je suis donc là à ma table de travail dans ce petit bureau qui a une quinzaine de minutes de chez moi et d'où je travaille et j'écris. Chez moi, la bibliothèque est dans le salon, mais il y a aussi des livres partout ailleurs, dans les toilettes, dans la chambre, dans les chambres, dans la cuisine. La bibliothèque est dans le salon parce que c'est l'endroit où il y a le plus d'espace pour pouvoir mettre les livres, et j'en ai beaucoup. Sans doute trop. Ma bibliothèque, elle est classée par siècle et par ordre alphabétique à l'intérieur des siècles. Régulièrement, elle est déclassée parce que je passe mon temps à entrer et sortir des ouvrages, donc là... Actuellement, il y a des piles de livres qui attendent d'être classés, donc qui sont posés au devant des livres, eux, bien rangés. Et ce rangement, c'est parce que j'ai souvent besoin de me référer à un livre ou à un autre, que ce soit pour l'écriture ou aussi pour mon activité de lectrice à voix haute. Et du coup, j'ai besoin de trouver des livres assez vite. Et comme j'en ai pas mal, c'est pratique de les classer par siècle et par ordre alphabétique. Quand j'étais petite, maman m'a toujours raconté que je refusais net d'apprendre à lire, que je ne voulais pas rentrer dans ce monde-là, que tous ces signes partout, c'était angoissant, et que j'avais pas envie de rentrer dans ce monde de signes dans lequel les adultes étaient sans cesse baignés. J'avais des parents qui lisaient beaucoup. Peut-être que c'est de les voir plonger dans les livres qui était un peu inquiétant pour moi, de me dire que quelque chose pouvait à ce point-là vous couper de l'extérieur et qu'on ait besoin de leur dire 17 fois à maman avant qu'elle lève la tête de son roman. Peut-être c'est pour ça, je sais pas, je m'en souviens pas. En tout cas, une fois que j'ai appris à lire, c'était foutu, je suis devenue une lectrice dévorante. Et ça s'est empiré après mes 9 ans, parce que à 9 ans, j'ai été violée par un pédocriminel et je me suis beaucoup réfugiée dans la lecture après. J'avais évidemment des grandes difficultés à entrer en relation avec autrui et avec le monde et du coup tous les mondes imaginaires et fictifs étaient des mondes refuges, donc je me suis énormément réfugiée dans les livres. Je lisais sans arrêt, je lisais dans la rue, je lisais dans la voiture, je lisais pendant les repas, ça rendait ma mère hystérique, je lisais tout le temps. Ma mère était éditrice chez Gallimard Jeunesse. Pour elle, comme pour mon père, la lecture est essentielle. C'est un pivot de leur vie quotidienne. Quand je pense à eux, je les vois dans les fauteuils rouges du salon, lire. Et puis en plus, moi j'étais amenée à lire les manuscrits que recevait ma mère pour lui donner mon avis, et notamment un, Harry Potter, et ça c'était complètement dingue comme expérience, et j'en ai encore un souvenir ébloui de pouvoir le lire, voilà, quelques semaines avant sa sortie officielle, de l'avoir en version clandestine. Ça c'était magique. C'était magique. Il y a beaucoup de livres qui m'ont marqué dans mon enfance, mais à la question de « Y a-t-il un premier livre qui vous a marqué ?», j'ai envie de parler d'Au revoir Blaireau, qui est un album jeunesse où un Blaireau vieillissant dit au revoir à chacun de ses amis, puis meurt, et chacun de ses amis ensuite se rappelle les différentes choses que Blaireau leur a apportées, les choses qu'il leur a transmises. Et si j'ai envie de parler de ce livre, c'est que c'est par ce livre que ma mère m'a annoncé la mort de ma grand-mère. Elle était assise sur le canapé du salon. Et elle avait ce livre sur les genoux. Et elle m'a invitée à venir près d'elle. Et je savais déjà, en voyant le livre, que Amy était morte et qu'elle était partie. Et c'était bouleversant de l'écouter me lire ce livre et de me dire par les mots d'autrui toute cette émotion foreclose qu'elle avait, toute cette tristesse qui était difficile à exprimer et qui pourtant s'est transmise de l'une à l'autre et de l'autre à l'une côte à côte sur ce canapé en lisant ce livre. Et moi, aujourd'hui, comme maman, comme mère, j'utilise beaucoup ça aussi, les livres, pour faire passer, faire comprendre, pour dire les choses que j'arrive pas à dire à mon fils. Je trouve que c'est un support merveilleux, merveilleux. Alors, je vais vous parler de l'art de la joie de Goliarda Sapienza. C'est un roman dans lequel on suit le parcours de Modesta, enfin toute sa vie, de son enfance, enfin ça commence quand elle a 9 ans il me semble, et on suit tout son parcours de vie. C'est un livre que j'ai acheté pour l'anniversaire d'une amie, complètement par hasard. J'étais dans une librairie, je savais pas quoi lui acheter et le titre m'a plu. J'ai lu vite fait le 4e de couverture. Et je me suis dit, tiens, ça, je suis sûre que ça va lui plaire. Ça a l'air d'être l'histoire d'une femme libre, puissante. Et puis la joie, voilà, c'est tout à fait elle. Donc bref, j'ai acheté le livre. Et quand je suis arrivée à l'anniversaire, ma copine me dit, mais je l'ai déjà. Et elle me dit, tu l'as lu? Je lui dis, non. Elle me dit, ben, je te l'offre. Et donc, elle m'a fait une petite dédicace. Qui figure en 3e page là, du livre. Me voici bien heureuse de pouvoir t'offrir ce livre le jour de mon anniversaire. L'autrice Goliarda Sapienza me plaît beaucoup aussi. Elle était comédienne, comme moi, révolutionnaire, elle était bisexuelle, elle était artiste, elle était extraordinairement libre, elle a choisi de consacrer 10 ans de sa vie à écrire ce livre, et tant pis si elle devenait pauvre, hein, c'est-à-dire elle vendait au fur et à mesure les œuvres qui étaient dans son appartement, dans sa maison, pour pouvoir continuer à écrire ce livre, à en peser chaque mot, à être certaine que chaque note était juste dans chaque phrase. Et ça, c'est une démarche qui me parle infiniment parce que moi aussi, je suis extraordinairement maniaque quand il s'agit de l'écriture et je peux retravailler une phrase, un passage, tant que j'ai pas la note juste, la note que j'ai en tête, tant que le texte ne correspond pas à l'atmosphère, à ce que j'ai envie qui vibre dans la phrase, je peux la reprendre un nombre incalculable de fois. C'est une œuvre qui parle de manière tellement crue et tellement précise et tellement honnête des rapports de domination entre les hommes et les femmes, les adultes et les enfants, l'ordre ecclésiastique et ceux qui s'y soumettent. Enfin, tous les rapports de domination, ils sont regardés à la loupe, et notamment le rapport patriarcal, et c'est certain que ça devait mettre un nombre incalculable de gens terriblement en danger et mal à l'aise dans ces années-là. On lui a refusé son livre pendant 20 ans. Il a été publié 2 ans après sa mort, et en 96. Une des choses que j'aime particulièrement dans le livre de Goliarda Sapienza, et dont je me suis dit hier au soir en la relisant, que forcément inconsciemment ça m'avait influencé dans l'écriture de La petite fille sur la banquise, c'est ses libertés stylistiques qu'elle prend. Elle passe d'une narration assez classique romanesque à tout d'un coup des dialogues de théâtre. Elle explore tout un tas de pistes d'écriture, et ce qui est très intéressant chez elle, c'est que ça n'est jamais gratuit. C'est toujours la nécessité de la scène qui prime, la nécessité du point vibrant, du point brûlant, de ce qui fait la vie dans la scène qui dicte sa manière d'écrire. Et alors évidemment, quand j'ai écrit La petite fille, je pensais plus du tout à ça. Mais moi, il a fallu que je trouve des typographies particulières pour exprimer le monde à l'endroit, le monde à l'envers. Enfin, et sans doute que d'avoir lu ça des années et des années avant, d'avoir vu une autrice s'autoriser cette liberté, sans doute que ça m'a permis de la prendre, cette liberté, sans trop me poser de questions. Goliarda Sapienza, elle parle d'inceste. La première scène du livre, c'est une scène où elle découvre le plaisir sexuel avec un ami. Et une demi-page plus tard, elle se fait violer par son père. Donc, on est tout de suite dans la vie vraie. Dans toutes ses ambivalences. Dans son éclat, dans son intensité, dans ce qu'elle a de meilleur et dans ce qu'elle a de pire. Et c'est sans arrêt ça, d'ailleurs, ce livre. C'est basculer sans arrêt d'un extrême à un autre et explorer, comme ça, tous les aspects de la vie. Et ça, je trouve ça extraordinaire d'avoir réussi à faire ça. Savoir qu'on pouvait Dire les choses, dire les vraies choses, celles qui sont tues. Dire, oui, l'inceste est central dans la vie de quelqu'un. Et central dans la vie du monde d'ailleurs, parce qu'il concerne énormément de personnes et qu'on en parle trop peu. Je salue d'ailleurs à ce propos, c'est complètement hors sujet, mais bon, comme je l'ai écouté la semaine dernière, votre extraordinaire podcast de Charlotte Pudlowski, vraiment j'ai trouvé ça bouleversant et en plus politiquement très courageux. Et c'est un podcast qui m'a vraiment fait du bien sur l'inceste. Une chose qui est particulièrement réussie dans ce livre, c'est justement qu'elle a réussi à nous conserver auprès d'elle quoi qu'elle nous raconte. Elle arrive à créer avec le lecteur une complicité, une sororité. Alors moi, je l'ai vécu comme une sororité, parce que je suis une femme. Je serais curieuse d'ailleurs de savoir ce qu'un homme ressent en lisant ce livre. Je serais curieuse aussi de savoir le lectorat de ce livre. Et vraiment, ouais, je serais très curieuse de savoir comment un homme reçoit ce livre. Parce que moi, vraiment, je l'ai reçu en sororité. Complète avec Modesta, dès le début, par cette scène atroce d'inceste et de meurtre, hein, parce que sitôt qu'elle s'est fait incestuer, elle met le feu à la maison et tue son père, sa mère, sa sœur. C'est quand même un début de roman costaud et qui nous accroche pourtant, parce qu'elle le fait avec une telle rage, avec un tel désir de vie. Je crois que c'est ça qui nous tient tout le temps, c'est son désir de vie. Elle est tout le temps dans la vie, Modesta, à tout prix. C'est ça qui est très beau dans ce livre, c'est comment elle a réussi à attraper la vie, à la saisir, à la ranger à l'intérieur du livre, parce que la vie, c'est rien d'autre qu'une immense tempête d'émotions, sans arrêt. À chaque instant, on se balotait d'un côté, d'un autre, et on essaye de tenir le cap. Et là, on est projeté dans la vie de quelqu'un, en plusieurs centaines de pages, et on suit justement cette tempête. Il y a ce titre aussi, L'art de la joie. La joie, ça a été ma bouée de sauvetage, ma balise, mon horizon. Pendant des années, c'est ce à quoi je me suis accrochée. Et Modesta s'accroche à sa joie, comme moi je m'y suis accrochée, comme beaucoup d'entre nous s'accrochent à cet endroit-là. De la joie à n'importe quel prix, de la joie, s'il vous plaît, de la joie. Moi, je me suis jetée au cou de la joie des milliers de fois, chaque fois qu'elle passait. C'était ma raison de vivre, la joie. Et c'est une chose qui m'a particulièrement émue dans ce livre, dans laquelle je me suis beaucoup reconnu. C'est un livre qui donne des ailes, c'est un livre qui donne de la puissance, du pouvoir, c'est un livre qui donne de la puissance profondément. Alors il y a un passage que je vais lire, il est tellement beau. C'est un passage que j'avais recopié sur un bout de papier et que j'ai accroché au mur à gauche de mon ordinateur tout le temps où j'ai écrit La petite fille sur la banquise, avec un certain nombre d'autres petites citations. Il y en avait 4-5 comme ça. Et celle-là, c'était la plus longue. Voilà, je vous la lis et puis après on en parlera. Le mal réside dans les mots que la tradition a voulu absolus, dans les significations dénaturées que les mots continuent à revêtir. Le mot « amour » mentait, exactement comme le mot « mort ». Beaucoup de mots mentaient. Ils mentaient presque tous. Voilà ce que je devais faire. Étudier les mots, exactement comme on étudie les plantes, les animaux. Et puis les nettoyer de la moisissure, les délivrer des incrustations de siècles de tradition, en inventer de nouveaux et surtout écarter pour ne plus m'en servir ceux que l'usage quotidien emploie avec le plus de fréquence, les plus pourris, comme sublime, devoir, tradition, abnégation, humilité, âme, pudeur, cœur, héroïsme, sentiment, piété, sacrifice, résignation. J'ai appris à lire les livres d'une autre façon. Au fur et à mesure que je rencontrais certains mots, certains adjectifs, je les sortais de leur contexte et je les analysais pour voir s'ils pouvaient être employés dans mon contexte. Dans cette première tentative d'identifier le mensonge caché derrière des mots qui avaient, y compris sur moi, un pouvoir de suggestion, je m'aperçus de combien d'entre eux, et donc de combien de fausses idées, j'avais été victime. Et ma haine grandit jour après jour, la haine de se découvrir trompée. Franchement, ce passage, j'aurais pu le mettre en exergue de mon livre. Ça a été tout le projet tout mon projet d'écriture est contenu dans cette citation. Parvenir à raconter, parce que bon, parler de son viol, des choses qu'on a vécues, c'est battu et rebattu, c'est un sujet qu'on a déjà beaucoup lu. Et pourtant, moi, il me manquait un livre. Il me manquait un livre qui dirait vraiment, qui dirait les mots à l'endroit. Parce que quand on a été victime de violences sexuelles dans l'enfance, la haine, c'est l'amour. La peur, la terreur, c'est le consentement. L'ami, c'est l'ennemi. Il y a tout un tas de choses qui se renversent. La sexualité, c'est la souffrance. Voilà. Et la vie est saccagée. Elle est saccagée aussi lexicalement. On n'a plus aucun mot qui dit les choses. Et on ne peut plus parler à personne. On se retrouve à plus être en capacité de s'adresser aux autres. C'est une des choses que j'ai trouvées les plus difficiles dans ma vie. C'est que tout d'un coup, je ne pouvais plus parler avec mes proches, avec mes parents, avec mes frères et sœurs. J'avais basculé dans un monde où il n'y avait plus de mots. En plus, quand on a 9 ans, on n'a pas accès aux mots réellement, on les prend comme ils viennent, on ne se rend pas compte de leurs racines, de leurs implications et de ce qui ment chez eux. Et il y a une scène que je raconte d'ailleurs dans mon livre qui m'a particulièrement marquée. J'étais en 4e, j'étais en cours de grec et on étudiait les racines des mots. Et ce jour-là, j'ai compris que pédophile, ça voulait dire qui aime les enfants. Que ce mot était un mot monstrueux, un mot mensonge qui était précisément le mot qu'il m'avait dit, je suis ton ami, et qu'on utilisait ce mot à tort et à travers de média en média, de livre en livre, et qu'on utilisait ce mot qui était une validation du discours de mon agresseur, qui voulait dire, c'est lui qui a raison, il est ton ami, il a fait ça par amitié. Et c'était insupportable, ça, ce jour-là. En quatrième, alors elle dit « Ma haine grandit jour après jour, la haine de se découvrir trompée. » Chez moi, je dirais que c'était plutôt la rage. La rage. Et c'est une rage qui m'a tenue vivante. Et je pense que, en cela, Modesta décrit très bien ce que c'est que de vivre toute une vie après la violence. C'est vraiment un livre de survivante. Une des choses qui met particulièrement Modesta en rage, dans un état de haine, c'est précisément ce rapport aux mots. Et moi, j'ai vécu ça aussi, et sans doute qu'on est plus que deux. En tout cas, moi, après la publication de mon livre, j'ai reçu des tas et des tas de lettres qui racontaient ça aussi. C'est que la violence sexuelle nous prive de mots, nous empêche l'accès aux violences. La violence sexuelle et la violence tout court, hein, quand on est enfant, je pense, nous prive de mots. Tous les mots nous font défaut et ça met dans une rage folle, parce que comment est-ce qu'on peut élaborer une pensée? Comment est-ce qu'on peut avoir un horizon? Comment est-ce qu'on peut habiter l'espace où on est si on n'a pas de mots pour le décrire, pour le penser, pour s'y installer, tout simplement, sans mots, on perd sa place au monde. Et cette quête de Modesta, je pense que c'est aussi précisément la mienne. En tout cas, ça a vraiment été le moteur d'écriture de mon livre, de La petite fille sur la banquise. Dès qu'un mot est trop usé, trop habituel, les tournures de phrases, je suis obligée d'interroger quand même chaque tournure. Dès qu'une phrase me vient trop facilement, je la tords dans tous les sens pour être certaine qu'elle vient pas d'au-delà de moi, enfin que c'est pas une phrase qui ne m'appartient pas, une phrase toute faite, une phrase qui fait que voilà, une phrase normée. Il faut que je secoue chaque phrase pour être certaine qu'elles sont bien passées par moi, par mon ami à moi, que c'est pas une espèce d'écriture automatique de stéréotype vaseux. Et c'est sans fin. Enfin, heureusement d'ailleurs. Sinon, Si j'arrivais au bout de cette quête, ce serait virer plus à rien d'écrire.
Vous venez d'écouter Adélaïde Bon à son micro et elle répondait aux questions de la journaliste Marie Sala. Elle vous recommande « L'art de la joie » de Colliarda Sapienza, paru aux éditions Vivianami, dans une traduction de Nathalie Castagnier. Adélaïde Bon est comédienne. Elle a signé un premier roman chez Grasset en 2018, « La petite fille sur la banquise ». Maud Benakcha est à l'édition et à la coordination du Book Club. Clémence Lecard a fait le montage de cet épisode et Jean-Baptiste Bonnet a réalisé le mixage. Ce podcast est aussi rendu possible grâce à Maureen Wilson, responsable éditoriale, Marion Girard, responsable de production, Charlotte Pudlowski, directrice éditoriale, et Mélissa Bounois, directrice des productions. Si la nouvelle saison de notre podcast Injustice, ou peut-être Une nuit, vous a échappé, écoutez-le vite. Créée par Charlotte Pudlowski, elle est consacrée à l'inceste et au silence qui le fabrique. Bonne écoute et à très vite.
Bonjour, ici Louis Vindel. Vous m'avez peut-être écouté dans Passage, aux côtés de Solal, mais aujourd'hui je vous dis deux mots sur Lettre Zola, une publication soutenue par Louis Média. La promesse de Lettre Zola, c'est d'amener la littérature dans votre boîte aux lettres. Chaque mois, recevez un texte original et inédit par une jeune plume française. Un petit livre d'une cinquantaine de pages grâce auquel vous pourrez vous plonger dans un sujet de société et découvrir les nouveaux visages de la littérature contemporaine. Mathieu Palin, Blandine Rinkel, Arthur Dreyfus, Abigail Assor, François-Henri Désérable et bien d'autres. Vous pouvez vous abonner à partir d'un peu plus de 6 euros sur www.lettrezola.fr. Bonne écoute et bonne lecture.
Brought to you by Lexus. Some things do more than their stated functions, because exceptional things inspire you to do exceptional things. To this select list, we add the all-new Lexus GX. With its exceptional capability, you'll see possibilities you never knew existed, sending you far outside your comfort zone. But as much as the GX challenges you, it also spoils you. Its intuitive technology and luxurious features mean that wherever you go, you'll never go without. Live up to it. The all-new Lexus GX.